On va commencer avec une première question au sujet de votre rôle et la période de travail en ce qui concerne la Convention du patrimoine mondial. Vous avez travaillé entre quelle année et quelle année avec la Convention et c'était quoi votre rôle?
Bon, écoutez, d'abord, je voudrais dire que je suis très fier que cette convention existe et semble marcher très bien. Mais que le travail pour la convention et à partir de la convention est loin d'être tout ce que l'UNESCO a fait pour la conservation en général. D'ailleurs, je suis en train d'écrire quelque chose pour bien souligner le fait que les activités de l'UNESCO en matière de conservation du patrimoine culturel ont été bien au-delà de la convention. Cela dit, la convention est un superbe instrument dont je suis fier et dont l'UNESCO peut être fier, je pense.
Et vous avez travaillé avec la convention au tout début, je crois.
Oui, eh ben, pas immédiatement au centre du travail, mais pas loin du centre, étant donné que j'étais directeur du cabinet du directeur général, M. Maheu, et que nous avions des rapports de mon ami Michel Battis, qui se battait sur le front des sciences, et qui est peut-être celui qui, à l'UNESCO, est le plus ancien dans le domaine de la conservation des domaines des biens naturels, je m'excuse. Et donc je savais ce qui se passait du côté des Nations Unies et de votre compatriote, M. Strong, qui poussait à l'adoption d'un instrument international à la conférence de Stockholm en 1972, je crois, qui visait l'instrument à la fois des sites naturels, mais aussi des biens culturels, disons, de prestige, puisque dans l'idée du précurseur de la Convention, il envisageait déjà de protéger une douzaine de monuments prestigieux, dans des pyramides, voyez-vous, au Taj Mahal. C'était ce genre de choses. Et alors, ayant suivi le problème avec les Nations Unies, si problème il y avait, c'était plutôt un problème, et nous étions un peu effrayés du dynamisme bien connu de M. Strong. Et entre-temps, nous savions, nous, depuis 6 ans, non pas moi, mais le secteur culturel préparait une convention pour la protection, la conservation des biens culturels. Et cette convention était sur le point d'être adoptée par la Conférence générale de 1972. Alors, on a essayé, de la part de M. Baptiste, d'ailleurs à New York, de dire, mais attention, l'UNESCO est en train de préparer un instrument international qui va protéger les objets ou les biens que vous souhaiteriez inclure dans votre projet d'instrument international. Ça n'a pas eu un grand effet. Le dynamisme bien connu des Nations Unies continuait dans la préparation en vue de la conférence de Stockholm de 1972. Avec l'UICN, je m'excuse, à Morges, continuait la préparation d'un instrument qui nous gênait, non pas parce que nous n'aimons pas l'UICN, au contraire, Baptiste travaillait avec eux depuis longtemps, mais pour le simple fait qu'il y aurait deux instruments internationaux ayant le même objet. Alors, le directeur général, M. Maheu, a dit, bon, bah, écoutez, on peut étendre la convention, on peut aussi couvrir les biens naturels. Il a confié le travail à un conseiller juridique qui a dit, mais c'est très simple, dans la définition des biens protégés, on ajoute les parcs nationaux, certaines réserves de la biosphère, ce qui ne contentait pas du tout, non pas tellement M. Strong, mais les milieux chargés de la protection des biens culturels, qui pour eux sont beaucoup plus, ont une définition beaucoup plus large. Donc je continue dans l'histoire, nous heurtions cette situation que aussi bien le directeur général, et moi j'étais son directeur de cabinet, on essayait d'éviter. Entre-temps, à ma demande et en accord avec lui depuis longtemps, il m'a nommé à la direction de la protection du patrimoine culturel. Et alors, immédiatement, j'ai vu mon ami Michel Baptiste qui est venu, il dit « Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Nous avons dit « Il faut arriver à que l'UNESCO récupère l'ensemble, étant donné que l'UNESCO est compétente aussi bien pour les sciences pour la culture. » Alors, il y a eu d'abord des discussions entre secrétariats. On a tout de suite compris que ce que suggérait le conseiller juridique de l'UNESCO était tout à fait insuffisant, que le mot était « nous voulons, il faut une protection sur un pied d'égalité ». Le pied d'égalité était la chose primordiale. Mais entre-temps, nous avions déjà demandé aux États membres ce qu'ils pensaient de notre projet UNESCO. Et on commençait à recevoir des réponses, très peu d'ailleurs. Le texte était trop compliqué, il manquait de simplicité, vous savez. Et si je me souviens bien, oui, à ce moment-là, Michel Baptiste, qui connaissait bien ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique, m'a dit « Mais ça, c'est une question maintenant qu'il faut discuter avec les Américains. » Alors, j'avais été nommé depuis 15 jours que j'ai demandé un ordre de mission pour Washington, et j'y suis allé, et ça avait été organisé très bien, une réunion où il y avait tous les milieux intéressés américains. Ça avait été organisé par le Département d'État.
En 72.
C'était 71.
Oui.
C'était peut-être automne 71. Et je me suis trouvé là et on m'a dit, bon, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que... je pouvais faire quelque chose parce que ça ne va pas. Et moi, je leur ai dit, écoutez, c'est tout à fait possible de réviser la convention, le projet, d'une façon vraiment fondamentale. Un comité d'experts gouvernementaux va siéger en avril 72. Nous les avons déjà convoqués. Nous allons leur dire, nous allons dire au gouvernement, écoutez, il faut des experts de la culture, de la nature comme de la culture, parce que on va avoir le problème d'inclure d'une façon sérieuse les biens naturels. Et bien, ce comité a eu lieu, et ça a été extrêmement dur. Ça a duré 3 semaines, je ne vous dis pas. La première semaine, ça s'est passé en grande partie dans les couloirs, sur l'idée, est-ce qu'on peut mettre bien culturel et bien naturel ? Il s'agit de convaincre les culturels, parce que nous avions dit dans la lettre d'invitation, faites attention, envoyez-nous des naturels, nous aimons les naturels autant que les culturels, et on s'est trouvé uniquement avec des culturels, pratiquement. Bon, à l'exception, naturellement, des États-Unis et du Canada. Peut-être un autre, mais enfin, je crois que c'était les seules exceptions. Et malgré ça, nous avons eu, malgré tout, une large majorité culturelle, dont je me souviens. Et la première semaine a été dans les corridors à convaincre les culturels que le naturel, c'était de la culture aussi. Ce que, je dois le dire, Michel Parent, qui avait accepté cette idée, l'a fait très bien, à convaincre peu à peu les gens de la culture, la France, la culture, mais nous, on aime la nature aussi. Bon, toujours est-il qu'on a vu que ça pouvait marcher de mettre les deux choses ensemble. Et alors, la procédure était très simple. Le comité a désigné deux sous-comités, un pour la définition uniquement, c'était la seule chose, tout le reste, ça pouvait marcher, n'est-ce pas? Et on a désigné un sous-comité dont Michel Baptiste était le secrétaire, et un sous-comité dont j'étais le secrétaire. On avait donc Pulture et on a siégé, oh, ça a bien duré 48 heures, même un peu plus, mais pas très longtemps, pour sortir les magnifiques définitions qui sont celles qui figurent actuellement dans la Convention. 72, d'avril 72, oui. Et c'est à ce comité qui a duré 3 semaines qu'un texte, un projet a été adopté. Je dois dire que la trame, la base du projet, c'était le projet américain, qui a beaucoup simplifié d'ailleurs et que j'ai accueilli avec le plus grand. J'aime les textes simples, il est simple le texte. C'est à vous maintenant de dire la jurisprudence, mais ce n'est pas à nous, au niveau du comité d'experts, de résoudre tous les petits problèmes. La première semaine, ce n'était pas facile. Vous savez, il y a des gens culturels comme l'émir Chehab du Liban, de lui dire que l'italien, c'était le fondateur de l'ICOMOS, Gazzola, de leur faire comprendre que la culture, ça pouvait aller avec la nature, ça n'a pas été facile. Bien, et alors on a eu ces deux gros sous-comités qui ont rédigé les projets de définition. Ça a été approuvé grosso modo par le comité principal qui a renvoyé l'ensemble à un comité de rédaction. Présidé par Parent. Je sais que vous le trouvez compliqué, mais enfin, il a fait du très bon travail à l'occasion. Et j'avais obtenu, je dois dire que dans le comité de rédaction, il y a toutes les langues représentées, y compris l'arabe. Si bien que c'est la convention, la seule première convention de l'UNESCO, il y en a peut-être eu des autres, qui a été rédigée en anglais, français, arabe, oui, je crois que c'est tout.
Espagnol ?
Espagnol, naturellement, voilà. Espagnol. Ce qui a évité des difficultés d'interprétation en disant « oui, mais le texte anglais dit comme ça ». Dans le fond, on s'était forcé d'avoir un texte commun et ça a fondé. C'était important parce que c'était aussi la base d'une nomenclature à la conférence de l'UNESCO, qui était dans le fond très contente, ensemble, la majorité, qu'on ait trouvé, disons, un modus vivendi avec les naturels et aussi avec les États membres, sauf sur la fameuse question de l'obligatoire, sur la contribution obligatoire.
Oui.
Alors là, il y a eu à la conférence générale le bloc des gens, je ne voudrais pas le dire, des gens riches, qui voulaient absolument qu'on ne parte pas de contributions obligatoires, quelles que soient. Et puis de l'autre côté, le bloc des gens mais qui ont le patrimoine, mais qui n'ont pas l'argent. Là aussi, ça a été, alors vraiment la seule bagarre, c'était obligatoire contre volontaire. Mm-hmm.
Oui.
Et finalement, je dois le dire, c'est Hummel de la délégation suisse qui a réussi un soir tard à trouver une solution médiane. Mais les États-Unis étaient toujours contre, avec leurs amis qui commençaient par la République fédérale d'Allemagne. Finalement, le texte de compromis a été soumis à la commission. Alors, le premier à parler contre, c'était le délégué de la République fédérale d'Allemagne, en disant qu'il ne voulait pas de volontaire, de, pas de obligatoire. Et tout à coup, le délégué américain, dont je ne me souviens plus le nom, qui n'était pas un spécialiste, s'est levé et a dit bon, et qu'il acceptait le texte compromis. Alors je dois dire que le délégué permanent allemand n'était pas très content qu'on lui avait coupé l'herbe sous les pieds. Alors, ensuite, est passé en plénière. En plénière, il y a eu une seule voix contre, mais qui n'est même pas... J'ai regardé les documents, on n'a pas mis qui c'était, mais je crois que c'était le délégué de la Thaïlande. Il avait reçu des instructions comme quoi il ne fallait jamais accepter de l'obligatoire, lui aussi, et dans le fond, il avait été contre. Mais autrement, c'était l'unanimité, moi. Hein. Voilà. Après, bon, on a fait signer la convention comme c'est d'usage, le texte original. Dans les cinq textes originaux, parce que ça dit que les textes sont originaux, les cinq, il n'y a plus un texte original. Et ils ont, donc le directeur général a signé les cinq textes, et puis il est parti en mission, je crois, dans un pays chaud. Oui, je crois. Et moi, j'ai été reposé. Oui. Et Michel aussi.
J'aimerais ça parler un peu de la liste comme telle, parce que je ne sais pas si vous savez que maintenant la liste a 851 sites et oui. Il y a au moins 1000 d'autres sur les listes indicatives.
Oui.
Alors j'aimerais ça savoir un peu, c'était quoi dans la tête des gens qui créaient la convention? Est-ce qu'ils s'attendaient qu'il y aurait autant de sites ou est-ce qu'on devrait avoir une limite? Est-ce que vous avez parlé de tout cela?
Oh, les délégués, je crois, ne s'y attendaient pas. Mais les membres du secrétariat, qui ont peut-être une certaine habitude, s'y attendaient un peu. Et c'est la raison pour laquelle il y a ces dispositions dans la Convention disant qu'il faut être représenté par des spécialistes, si possible, et non pas par des gouvernementaux, des diplomates, en espérant que... plus d'ailleurs que l'intervention de l'ICOMOS sur lesquelles nous avions nos doutes, pas de l'UICN, soyons très francs, on n'avait aucun doute sur la capacité de l'UICN de faire des recommandations objectives et scientifiques et documentées. On avait de très gros doutes pour l'ICOMOS.
Pourquoi?
Oh, écoutez, l'ICOMOS... Je ne veux pas dire, à ce moment-là, c'était des architectes, c'était un club, c'était pas, ça n'était pas, je ne sais pas si vous avez UICN, c'est semi-gouvernemental, ça avait une base scientifique très forte. Peut-être l'ICOMOS l'a gagné, mais à ce moment-là, ce n'était pas le cas. Et ce qu'on craignait, c'était que la pression... des gouvernements pour des raisons purement politiques. Et ça, il faut le dire que moi, je ne suis pas entré dans les tractations qui sont antérieures à des inscriptions pour la liste. Mais je comprends très bien qu'il y a des pressions politiques qui font en sorte que parfois un site culturel ou naturel aux yeux non pas d'un spécialiste, on n'est pas des spécialistes de toutes les cultures. On est des spécialistes, bon, sur l'esthétique. Bon, l'esthétique, je trouve qu'une chose, quelle que soit la culture, on peut la trouver belle ou laide. Mais c'est différent. La façon de concevoir si c'est beau ou méritant n'est pas la même en Asie, par exemple, d'une façon générale, qu'en Occident. Et alors, pour juger de la qualité, de la valeur d'un bien, c'est une chose qui est très délicate. Et je ne vois pas comment résoudre, j'y ai réfléchi. On peut exclure les gouvernementaux, c'est facile, c'est pas facile, parce que c'est eux qui vont finalement décider. Mais évidemment, ce n'est pas les gens que je pense qui forcément devraient avoir la décision. D'autre part, pour avoir un homme qui a non seulement la connaissance des diverses cultures, différents types de monuments, il y en a à Bali, certains types en Indonésie, il y a un autre type au Japon, il y a un troisième type en Chine, il y a un quatrième type, qui a à la fois la connaissance des différentes, ces différentes cultures, et ensuite, parce qu'il y a une autre chose, la même conception de la façon de les conserver. Alors, avoir un expert qui a la connaissance, ou un groupe d'experts, parce que vous ne trouvez pas, qui a la connaissance des cultures, de la façon de conserver, et cela au point global, moi je ne le connais pas, je ne sais pas.
Est-ce que vous pensez qu'il devrait peut-être, de temps à autre, le comité parle de faire un moratoire sur les inscriptions, de faire un moratoire parce qu'il y a beaucoup de sites?
Moi, je crois
Est-ce que vous
avez pris la mauvaise pente et puis il faut la continuer.
Dans quel sens?
La mauvaise pente, c'est d'augmenter. Maintenant, c'est difficile de revenir en arrière. Si vous refusez... je ne sais pas, une chose qui n'était pas dans la liste, mais qui est méritoire, je ne sais pas, assise, c'est dans la liste, bon, prenons d'autres exemples. Si vous le refusez, ils vous diront, oui, mais vous avez mis Taos. Hein.
Alors,
vous me comprenez?
Oui, c'est difficile à limiter maintenant.
Mais le moment où ça a pris cette tournure médiatique, ce n'est pas une mauvaise chose, mais je pense que moi, je ne vois pas comment on peut arrêter ça. On peut, dans une certaine mesure, exprimer des doutes en tant qu'expert pour des raisons. Mais vous allez toujours avoir... Et puis, il y a une question maintenant d'orgueil national. Vous savez très bien, il faut avoir autant de biens sur la liste que l'Italie. Vous rendez compte? Alors, dans ce cas-là, vous allez avec une liste de 20 000 sites. C'est compréhensible, ça a une valeur commerciale, ce que vous êtes en train de faire. Nous, on était des rêveurs, n'est-ce pas ? Michel, Baptiste, pas des rêveurs, on se rendait compte, mais pas à ce point-là. On ne se rendait pas à ce point-là, le côté, la retombée touristique et comme ça. Mais le jour où j'ai vu apparaître le signe de la Convention dans les publicités, d'un voyageurgiste, et bien j'ai dit c'est gagné quand même, ça c'était beau, non? C'est gagné, ça veut dire qu'on existe.
Est-ce que vous pensez que ça, la convention a vraiment aidé la conservation? Comment est-ce que vous voyez la balance liste et conservation dans tout cela?
Ben, je vous dirais franchement, ça a été un élément qui a certainement contribué, mais ce n'est pas tout. J'ai étudié ça. Il n'y avait pas, vous savez, la conservation des monuments prestigieux, c'est pas ancien, hein, au plan international. Oui. C'est pas ancien du tout. C'est après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu un renouveau très fort après la guerre, au moment où l'UNESCO est né.
C'est ça. Tout ça, c'est dans le début de l'UNESCO.
Mais vous savez, à Londres, moi j'ai regardé ce qu'ils ont discuté à Londres. La culture, c'était pas la chose première. C'était l'éducation, parce qu'il fallait éliminer l'enseignement nazi. En partie, c'était ça l'idée qu'il y avait dans la tête. Et puis, en ce qui concerne, disons, la culture, on voulait récupérer les œuvres d'art qui avaient été prises par le maréchal Göring et autres. Hein, voilà. Et la restitution. C'était l'idée qu'ils avaient à Londres. Et après, tout a été construit, et c'est ça que j'y tiens beaucoup, parce que c'est le secrétariat et quelques personnes au conseil exécutif qui ont toujours appuyé, donné, et qui a fait ce que a fait l'UNESCO dans ce domaine-là, qui est une des choses les plus concrètes qui existent, les plus visibles et les plus utiles. L'essentiel que j'ai vu dans la Convention au départ, c'est que moi, je voulais avoir de l'argent qui était nécessaire, comme on avait eu pour la campagne de Nubie. Il y a 100 millions qui ont été dépensés dans la campagne de Nubie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Naturellement, pas tous dans le fonds UNESCO. Il y a 10 millions dans le fonds UNESCO, 20 millions dans le fonds UNESCO. Le reste, c'était des bilatéraux. Et c'est ce que je souhaiterais, que certaines choses soient faites encore, de susciter des contributions qui viennent d'ailleurs. Parce que l'UNESCO, avec son petit budget, elle ne peut, peut pas faire ça. Ce qu'elle peut faire, même le centre, c'est trouver le projet, identifier le projet, savoir ce qu'il faut faire. C'est technique la plupart du temps.
Mais je suis retournée sur cette question-là parce que c'est vraiment là que j'ai compris était la base de la vision de coopération internationale. C'est d'avoir les projets en coopération avec d'autres pour que les gens s'entraident. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que la Convention a vraiment réussi dans de ce côté-là? Parce que je n'ai pas l'impression qu'il y ait des grandes campagnes, comme les campagnes dans le secteur culturel. Vous avez eu des grandes campagnes, mais il y a tellement de sites sur la liste, on revient à cette question-là, qu'il n'y a pas vraiment des campagnes comme telles. Il y a de la coopération internationale, mais pas à cette échelle-là. C'est mon impression. Oui. Je ne sais pas comment vous voyez ça.
Et vous, il y avait toute une formation, disons, de mes collègues, qui n'étaient d'ailleurs pas des directeurs, des choses comme ça, mais qui réussissaient, parce que l'intérêt ne provient pas du centre. L'intérêt, à mon avis, provient surtout de la base. Alors, vous voulez... Moi, je ne sais pas, j'ai eu le cas au Sri Lanka. Ben, de dîner, qui m'avait invité, un bon dîner avec le RESREP du UNDP, où, by the way, non, il était américain, il n'était pas canadien. C'est comme ça que partent les choses. Elle me dit, oh, oui, you want $10,000, I give them you to right away. Oh, OK. Alors, bon, avec De Silva, qui me faisait faire le tour de Sri Lanka, j'ai vu tout de suite un petit projet qu'on pouvait faire. Et qui est une réussite fantastique. Les Dambula. Vous avez visité Dambula? C'était l'éclairage des cavernes de Dambula. Ça n'était que l'éclairage. $10,000 de monsieur, je ne me souviens plus son nom, parce que c'était un resrep cultivé. On a fait venir un expert UK, et puis ensuite on a acheté l'équipement, je ne sais pas où, quelque part, probablement en Allemagne. C'est quelque chose, c'est superbe au point de vue esthétique. Et puis la coopération des locaux, parce qu'il a fallu enlever un tas de bouddhas de qui ne valaient pas un sou, qui venaient fabriquer en Belgique pour garder les vrais bouddhas authentiques. Et vous arrivez à un résultat fantastique. Alors, évidemment, allons dans un endroit en visite, si vous êtes invité, ou si, en général, l'ambassadeur américain s'intéressait, vous invite, parce qu'il s'intéressait, et c'est le début, il vous dit, mais oui, il faudrait faire quelque chose, moi, je peux vous donner tant, etc. Bon, puis petit à petit, bon, quand ça réussit, vous savez, l'argent vient pas du haut, c'est pas en ayant un spécialiste pour recueillir des fonds que vous avez besoin, d'un bon projet. Et le bon projet doit être financé par l'UNESCO ou par le centre. Mais pour le projet, ça coûte de l'argent, mais enfin pas des sommes. En général, avec $20,000 maintenant, on devrait pouvoir le faire, mais vous devez avoir des ingénieurs, différentes spécialités qu'il faut payer. Remarquez qu'ils acceptent de faire le travail pour l'UNESCO pour presque rien de montant, parce que c'était pour le pays, ça les intéressait. Je vous donne un exemple. Là, vous connaissez Sidi Bou Saïd en Tunisie ?
Oui.
Vous
oui,
savez
je
très
l'ai
bien
vu.
Que
oui, oui, je l'ai vu.
Oui, mais vous savez que Sidi Bou Saïd descend vers la mer. Hein. Les risques définis. Alors, il fallait avoir des ingénieurs de mécanique des sols et d'hydrologie. Et puis là, bon, là, c'est justement d'ailleurs Michel qui m'a envoyé. Il m'a pas donné. Il connaissait pas la personne. C'est pas un copain, mais il m'a dit comment je pouvais le trouver. Ben, il a trouvé le système que l'eau, au lieu de faire descendre Sidi Bou Saïd, pour le moment, elle passe derrière. Mmh. Voilà. Mmh. Mais oui, mais pour ça, c'est une bonne idée, c'est facile, mais il faut un ingénieur qui fasse les calculs avec sa petite règle à calculer.
Mais ça, c'est vraiment un rôle intéressant pour l'UNESCO, par exemple, c'est de faire le lien entre cette expertise-là et les besoins.
Moi, je trouve que c'est essentiel.
Alors, une avant-dernière question, c'est de juste voir, comme vue globale, qu'est-ce que vous pensez sont les réussites ou les échecs de la Convention?
Oh, je veux dire, bon, elle a certainement contribué au sentiment global, mondial, à l'égard du patrimoine, en général. Deux, elle a certainement contribué à une meilleure coopération entre les administrations culturelles, les administrations culturelles.
Naturelles,
oui. Trois, et au point de vue médiatique, elle a fait connaître l'UNESCO, je dirais même, elle a fait connaître la conservation et même l'UNESCO encore mieux dans le monde. C'est pas uniquement, mais elle a contribué. Trois, vous me demandez immédiatement à rédiger un C4. Hein, trois, je crois qu'elle va contribuer à une meilleure, non pas organisation, j'aime pas organisation, mais à une meilleure classification en général de ce qu'est le patrimoine culturel, n'est-ce pas, et naturel. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas. On sait maintenant de quoi il s'agit, plus ou moins, un peu mieux, grâce à la Convention, parce que d'abord les pays ont été obligés de se pencher, de bien savoir de quoi il s'agissait. Elle a contribué probablement, quand même, à encourager la conservation dans les pays concernés. Elle peut maintenant jouer un rôle en partie dans une chose que faisaient les directeurs généraux que j'ai connus, c'est d'intervenir discrètement par des lettres discrètes, des interventions discrètes auprès des ambassadeurs, à éviter des désastres causés par des travaux publics ou par des destructions ou par des constructions nouvelles. Ça c'est pas connu.
Vous me faites penser à l'approche du comité du patrimoine mondial ces jours-ci. Tout ça, c'est très public et jusqu'à un certain point, ce n'est pas discret.
À mon avis, les démarches qui ont eu du succès ont des démarches qui ont été discrètes au plan diplomatique. Et il n'y a pas eu de communiqué de presse en disant « Ah, nous avons... » Maintenant, vous avez un grand morceau sur le Paris en péril. Quel est le...
Oui, Il y a le cas de le pont proposé pour Dresde, la vallée de l'Elbe.
Ah oui, Dresde. Oui.
Je pense que c'est ça peut-être.
Oui, c'est ça, je crois.
Oui, ça s'était mentionné. Et les sites en France, parce qu'il y avait plusieurs articles sur les sites.
Oui,
en
France. Oui. Oh, vous risquez d'en avoir. Hein. C'est quand vous mettez toutes les bords de la Seine, mes enfants, oui. c'est un danger. Hein. C'est très joli, ça fait plaisir au maire actuel, mais ça vous met dans des drôles de, ça peut vous mettre dans des drôles d'ennuis. Hein. Mm-hmm. Mm-hmm. Si c'est les ennuis que vous voulez éviter, c'est une chose. Si c'est, mais il est évident qu'il y en aura d'autres. Les constructions dans des sites protégés.
Oui, c'est
et puis, on ne réussit pas toujours. Je me souviens, Maheu est intervenu pour Palmyre. On a construit l'hôtel Sofitel sur le site archéologique.
Oui, mais j'ai l'impression que le comité va commencer à enlever ces sites-là de la liste du patrimoine mondial. On a enlevé le premier site l'année dernière.
Oui, de supprimer. Ah oui, je crois que c'est une bonne chose. Ça va permettre une meilleure protection pour les autres. Okay. Parce que les gens y tiennent quand même.
Oui,
n'est-ce pas?
C'est ça qu'on va voir, une certaine balance.
Ça devait être précédé par des entretiens discrets menés dans l'État même, avec un assez gros haut niveau. On ne fait pas ça du jour au lendemain, paf. Il faut, avant que le comité décide, il faut que le secrétariat lui donne quand même le pouvoir au secrétariat de voir si on ne peut pas arranger ça à l'amiable, vous savez.